à visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques dévoilent sans filtre leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, c'est un rendez-vous d'information proposé et présenté par Nadia Bey.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous d'information à visage découvert. Vous êtes bien à l'écoute des programmes de Radio Orient. Et aujourd'hui, dans À visage découvert, cap sur l'Algérie. Oui, cap sur l'Algérie, on parlera de la place de la diaspora franco-algérienne. Est-ce une chance à la fois pour l'Algérie mais aussi pour la France ? Dans À visage découvert, il sera question également des prochaines élections législatives prévues en Algérie le 2 juillet prochain. Il faut savoir que la diaspora franco-algérienne vote en France et même ailleurs dans le monde pour élire leurs représentants au sein de l'Assemblée populaire. 6 sièges en tout pour cette fois-ci. 6 députés donc représentant les franco-algériens au sein de la future Assemblée populaire. Quelle va être justement, me diriez-vous, leur mission, leur programme, leur rôle et surtout les attentes des électeurs franco-algériens? Tout un programme. Pour en parler, 3 importantes personnalités de premier plan et on peut dire et ajouter 3 poids lourds aujourd'hui dans les studios de Radio Orient. Il s'agit, honneur aux dames d'abord, Warda Baylich Berada. Vous êtes née en Algérie, à Oran plus exactement.
Tout à fait.
Je ne me trompe pas.
Oui,
on ne donne pas l'âge parce qu'il paraît que c'est inélégant pour les femmes. Enfin, on va dire un peu dans la quarantaine, c'est ça ?
Exactement.
Quadra, voilà. Ouais. Et elle est maman d'un enfant et un grand garçon que nous saluons. Et nous avons eu le plaisir d'interviewer plusieurs fois à l'époque la maman que nous saluons. Vous avez fait vos études à l'étranger, notamment en France, mais aussi aux USA. Vous êtes chef d'entreprise et vous avez un cabinet conseil en data et en intelligence artificielle, la société Bold. Vous intervenez dans différentes conférences à l'échelle internationale et vous êtes auteur de l'ouvrage sur l'IA. L'IA, bien sûr, avec cette vision humaine et humaniste. Et vous êtes tout récemment, vous avez été nommée vice-présidente d'honneur du cluster digital Africa. Et justement, le président d'honneur est avec nous ce soir et la transition est toute faite pour le présenter. Cassia Etiala aussi, c'est un habitué des studios de Radio Orient. Et vous êtes donc entrepreneur, connu à l'échelle internationale, chef d'entreprise et innovateur. Vous avez fondé plusieurs sociétés en Europe, en Asie et en Algérie. Cassia Etiala, on vous appelle Cassia Etiala alors que vous vous appelez Kassem Etiala. Pour être un peu correct, pour qu'on puisse vous retrouver un petit peu sur les réseaux sociaux. Vous avez une start-up qui a été la première au monde à afficher images de télévision sur écran plat. Donc, écran plat, on le doit à vous. C'est bien ça, Cassie ? Vous répondez
pas. J'ai contribué.
Voilà, vous avez contribué. On vous connaît aussi comme président élu de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France, la Cassie France. Président d'honneur du cluster digital Africa. Et vous êtes un acteur, il faut le dire, majeur. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes engagé donc, en direction de la diaspora franco-algérienne. Vous avez été membre au Conseil national de la diaspora, du dialogue en 1994 sous feu Boudiaf pendant la décennie noire, où vous avez été présent pendant toute la décennie. C'est bien ça. Je n'ai rien oublié, cher Cassie.
Non, non, vous avez tout dit.
Voilà, on a tout dit. Maintenant, on enchaîne avec aussi quelqu'un qu'on a l'habitude de recevoir, que vous entendez sur d'autres médias, mais que vous pouvez lire également dans pas mal de journaux. Il est médecin, docteur Majid Seyoussine, vous avez 56 ans, vous êtes gériatre hospitalier, vous avez fait vos études de médecine en Algérie, Alger,
oui.
À Alger, à La Périne.
La Périne, la regrettée, La Périne et la fac centrale.
Pourquoi la regretter?
Parce qu'on regrette cette époque où nous étions jeunes sans cheveux blancs.
Ah, mais vous en avez quelques-uns seulement. Bon, ouais. vous êtes encore jeune, 56 ans. Ah, il faut pas. Vous avez réussi donc à occuper quand même une place dans de grands CHU ici en France. Ce n'était pas facile parce qu'il y avait également ce problème de reconnaissance et d'équivalence de diplôme. Et c'est un combat que vous avez mené.
Si j'osais, je rappellerai que j'ai fait condamner la France pour discrimination d'État devant la défunte ALDE lors de sa première décision en 2006 sur le traitement des médecins à diplôme extra-communautaire.
On se rappelle de ça, effectivement. Vous êtes également un homme engagé, où on vous a connu à l'époque également militant au sein du MRAP sous Mouloud Aounit. Que Dieu ait son âme.
Que Dieu ait son âme. Il nous manque beaucoup aujourd'hui.
Il nous manque beaucoup, son combat, son militantisme, sa voix. On a eu le plaisir de le recevoir dans pas mal d'émissions, voilà. Donc, mais aussi militant au sein de nombreuses associations comme Médecins du Monde. Et vous présidez justement, ça c'est important, l'association L'Égalité d'abord. Alors là, l'égalité dans un pays où justement l'égalité ce n'est qu'un petit slogan, j'ai envie de dire, ça fait plus de 30 ans que vous militez. Est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent, oui ou non ?
Vous savez, quand on a créé L'Égalité d'abord en 2006, on déplorait qu'il y ait 36 000 communes en France, aucun maire issu de la diversité, aucun élu à l'Assemblée nationale, personne dans les conseils d'administration. 20 ans plus tard, on avait raison avant tout le monde, puisqu'aujourd'hui, on a des maires de grandes villes qui sont issus de la diversité, on a des élus à l'Assemblée nationale, on a des présidents de grandes sociétés. Donc on avait raison de crier, de taper très fort sur la porte pour l'ouvrir.
Et je suis tentée de vous dire aussi qu'aujourd'hui, en 2026, il y a encore des médecins algériens qui sont confrontés à un problème d'équivalence. On a vu les déclarations faites par le président de la République, Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que justement vous les soutenez ?
Oui, alors en fait, c'est un problème récurrent. C'est comme pour les cartes de séjour, il y a des régularisations par vague. Mais comme l'ogre a toujours faim, il cherche de nouvelles victimes et donc on renouvelle le stock sans cesse.
Alors que 45% des médecins algériens sont dans les urgences des CHU français.
Après, ils sont largement au-delà des urgences. Il y en a dans tous les services. Vous avez des professeurs d'université. Le président de la Société d'addictologie française, Amine Benyamina, est oranais.
Qui était prévu pour cette émission, mais il est en ce moment même en Italie.
Je suis chef de service d'un service de médecine. Il y en a partout. Vous avez des radiothérapeutes. On a largement essaimé, on a largement contribué au sauvetage du système de santé français.
Alors, est-ce que c'est juste justement que ces médecins algériens qui font tourner la machine de France soient confrontés aujourd'hui à des problèmes d'équivalence Cassia Etiala ?
Non, c'est pas juste pour la simple raison que c'est des êtres humains comme tous les autres et puis ils ont fait le même cursus scolaire, même un peu mieux que les autres. Et c'est de la discrimination pour moi, clair et net. Mais on pensait qu'avec le désert médical en France, les choses vont s'arranger. Mais finalement, il y a eu des extrêmes qui sont arrivés en force pendant ces 5 dernières années et qui ont tout bousillé dans cette possibilité de plus apprécier, plus raccorder les violents et plus avancer pour faire de ces médecins vraiment une force pour la médecine française, parce qu'ils savent.
Et c'est une perte aussi pour l'Algérie, puisque il faut le dire, ils ont été formés par l'Algérie. Alors, le problème ne se pose pas pour les informaticiens. Ouada Belaïch, justement, 47% des informaticiens sont d'origine algérienne, ici en France.
Alors effectivement, mais de manière plus générale au niveau du monde, on est nombreux, on est connus. Je ne citerai pas, mais il y en a aussi qui sont au sein de Meta et des grandes sociétés, donc les GAFAM. Donc on a effectivement notre position. Et au-delà effectivement d'Algériens, j'aime bien dire franco-algériens, parce qu'effectivement on assume effectivement cette double culture, ce double pays et cette double éducation. Donc j'y tiens.
Il faut quand même le dire, c'est aussi une perte pour l'Algérie, Cassia Etiala.
C'est beaucoup d'argent.
Vous n'allez pas me contredire. C'est beaucoup d'argent. Ça, c'est un investissement quand même.
L'Algérie forme à peu près 260 000 hauts cadres, médecins et ingénieurs sortis des grandes écoles chaque année. 260 000.
260, un chiffre à retenir.
Voilà.
Et c'est la France qui en profite, et même d'autres pays.
On a la chance que la France en profite, parce que nous n'avons pas l'écosystème pour absorber autant de sorties d'école. Et c'est même un peu voulu que nos enfants aillent. La mobilité pour les jeunes est plus que nécessaire. Il ne faut pas que nos jeunes restent chez eux, cloîtrés entre eux, etc. Il faut qu'ils bougent dans le monde entier. Les Français de souche et les Américains de souche voyagent énormément. On les retrouve même en Algérie, on les retrouve en Afrique, on les retrouve en Asie. Il faut que nos jeunes bougent. Il ne faut pas qu'ils aient des frontières. Et ça, c'est un combat et c'est un droit pour que nos jeunes. Quand on parle aujourd'hui de beaucoup d'Algériens dans le monde, ces Algériens ont le droit, au même titre que les autres, de bouger et de se former et libre à eux de revenir chez eux ou travailler ailleurs ou s'installer ailleurs.
Ou être entre les deux aussi.
Tout à fait.
Nous, vous voyez, nous, à notre âge, on a eu des réussites, on a des familles. Moi-même, je suis de couple mixte. Des enfants qui sont intégrés, qui sont hauts fonctionnaires et qui sont banquiers et ingénieurs. Et je suis toujours assis entre deux chaises. Donc il y a cet ADN qui est en nous,
que vous,
d'algérianité, qu'on transmet à nos enfants.
Ouais.
Et qu'il n'y a aucune crainte de perdre ses enfants. Même la France ne perdra pas ses enfants, puisqu'on vient de voir Warda qui se revendique franco-algérienne.
Elle souligne, elle insiste, oui.
Pour le peu qu'elle a, elle se revendique franco-algérienne. Donc c'est magnifique pour la France. Voilà.
Mais dites ça aussi, justement, un mot sur l'exil. C'est pas l'exil, c'est justement ces pertes que l'Algérie investit dans ses cadres, mais ils n'ont pas l'écosystème, disait justement Kassi Atala. Ils désertent les hôpitaux alors que l'Algérie a aussi besoin de ce potentiel de médecins.
Au premier abord, ça peut paraître une perte financière par rapport à la formation. À former un médecin, c'est 1 million d'euros, du primaire jusqu'à l'obtention du doctorat.
Ouais.
En revanche, charge à l'Algérie d'en faire une richesse, puisque ces gens-là sont partis partout. Se sont installés, ont appris, se sont enrichis.
Ils ont réussi, se sont enrichis.
Charge à l'Algérie d'organiser des flux pour qu'il y ait un retour de bénéfices, un retour sur investissement avec des Algériens venus de l'étranger, qui vont, les Algériens des deux rives, hein, comme j'aime bien les appeler, venir enrichir le système, montrer. Moi, je suis gériatre. Dans 2 jours, je suis à Drab en Khedda pour donner une formation. Je le fais à titre bénévole et amical pour la Société de médecine générale de la Wilaya. Il n'y a pas de formation de gériatrie en Algérie.
Alors justement, c'est ce que j'allais vous dire. Qu'en est-il de la gériatrie en Algérie ? Il y a tout un programme que vous pouvez soumettre, puisqu'on va parler justement des législatives algériennes prévues le 2 juillet. Là, il y a un appel du pied, et ce n'est pas la première fois, de l'Algérie. L'Algérie qui veut justement que sa diaspora participe, s'implique dans les plans de développement. Puisque cette fois-ci, ce n'est pas 4 députés, c'est quand même 6 députés. Mmh. Justement, est-ce qu'on peut rêver justement d'une implication concrète et non pas juste un vœu pieux de la diaspora dans les plans de développement en Algérie, Kassi Atala, qu'en est-il ? Ou alors on est juste dans les intentions, on fait plus du marketing politique sans plus ?
Non, l'évolution, les sciences et même la conjoncture internationale imposent de fait aujourd'hui que nous allons aborder ces nouvelles élections sous un angle de vue beaucoup plus précis.
C'est-à-dire ?
À savoir, nous sortons. Vous savez, vous avez vécu avec moi la décennie noire.
Absolument.
Nous sortons d'une décennie noire où l'Algérie était partie et qu'il fallait récupérer les bouts à droite à gauche. Et la diaspora a joué beaucoup dans ce sens. Si vous vous rappelez, dans les élections des années 95, on a mobilisé la diaspora pour que ça soit un exemple au niveau mondial. On a CNN des informations sur la mobilisation de la diaspora pour les élections de Zerwal, si vous vous rappelez.
Oui.
Et ça a fait
des taux de participation hallucinants pour Zerwal à l'époque. Hein.
Il y a eu un engouement en Algérie parce qu'il y avait la peur encore de ce fantôme, etc. Ça a fait sortir tout le monde et l'Algérie est repartie pour de belles aventures. Et aujourd'hui, on consomme le fruit de ce geste de la diaspora vis-à-vis de son pays. On retrouve aujourd'hui un écosystème qui est en train de se mettre en place où les compétences vont prendre le dessus sur la médiocrité, où on a vu le travail la dernière législature, c'est quand même, il y avait des progrès puisque nos représentants députés de la diaspora ont fait un travail magnifique avec des textes, avec des arrangements pour le bien des deux côtés de la Méditerranée, etc. Ils ont joué leur rôle. Ils avaient le niveau pour le faire. Et cette législation à venir va être encore plus dans ce sens-là de compétitivité, de qualité, de vision vers l'avenir, puisqu'on a une experte en intelligence artificielle qui est avec nous. On ne peut pas aller outre que cet événement majeur qui est l'apport des sciences dans l'écosystème et le développement des pays.
Magistré aussi, docteur Magistré aussi, vous ne semblez pas tout à fait d'accord avec l'explication de Kassi Atala et dire que ces députés, beaucoup de gens, quand je circule dehors, ils se demandent s'ils existent en France. Beaucoup de gens ne le savent pas. Alors justement, je le dis, je le répète, vous avez des représentants, il y aura 6 députés et vous pouvez les solliciter. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de bureau, ils ne savent pas comment les contacter. Alors dites-nous un mot justement, est-ce qu'il faut justement espérer un changement, puisque les profils sont en train de changer. Il y a des indépendants, et on n'a pas que FLN, Hamas, RNDA. Il y a aussi des profils de candidats indépendants que nous allons les recevoir dans le cadre de cette émission. Hein.
Je suis d'accord sur l'espoir de voir quelque chose arriver.
Ah, l'espoir.
Voilà, l'espoir, on est tous d'accord sur l'espoir. Je pense qu'on est quand même à une époque où on doit formaliser les choses. Et puisqu'on a des représentants, il faudrait qu'on les connaisse, c'est juste. Il faudrait qu'ils nous cherchent. Il faudrait qu'on commence. Mais ça, moi, je l'avais suggéré il y a quelques années. À l'époque, c'était Ismaël Babouer qui était le président du FNES.
Ouais.
Et j'avais suggéré, moi, de constituer un annuaire des compétences.
Ouais.
C'est assez facile.
Enfin, un bel outil, ça aurait été un bel outil. Ça,
on va tous renouveler notre passeport dans les consulats algériens.
Ouais.
Il suffit de demander la profession de chacun, son lieu d'exercice, qu'est-ce qu'il fait. Et à partir de ça, on construit un bouse-bou des Algériens de l'étranger. Et à partir de ça, quand on a besoin d'un expert, quand on a besoin de quelqu'un pour une formation, pour un avis, pour un dossier, pour un projet, on va aller préférentiellement chercher l'Algérien qui travaillera peut-être bénévolement. Et même s'il est rémunéré, c'est pas un péché, mais il travaillera, au moins on en est certain, avec le cœur et le patriotisme. Donc ça, il serait peut-être temps que ce soit mis en place. Et quant à nos élus, il faut qu'ils aillent à la rencontre de leurs administrés.
Oui.
Il faut qu'ils organisent des réunions, il faut qu'ils fassent des choses.
Qu'ils fassent campagne.
Qu'ils servent d'intercesseurs entre ouais. ceux qui sont ici et ceux qui sont là-bas. Ça, c'est le rôle d'un élu.
Alors, le Ouzou, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on peut le faire, Ouarda Baylij?
Écoutez, tout à fait. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre de l'altitude, prendre de la hauteur et rechercher des solutions. Plutôt effectivement que nos maux et effectivement nos défauts. On en a tous, pas que nous, on en a au niveau du monde, hein, de la planète Terre. Donc en termes de solutions au niveau de l'intelligence artificielle, on a des experts répartis à travers le monde et on a notre terrain à prendre encore une fois. Par cette intelligence artificielle.
Il n'y a pas de constat à faire du tout, bah, parce que vous prenez de la hauteur, et nous, on a les pieds sur terre. C'est ça, c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Quoi.
Oui, mais il faut s'élever, parce que, écoutez, moi, je suis intervenue plusieurs fois, à plusieurs reprises, comme monsieur en Algérie, au sein des universités, des grandes universités, connues, réputées, des écoles également, mais aussi en tant que conférencière. Donc, j'ai rencontré énormément de jeunes qui sont très, très intelligents, compétents, ce que disait effectivement Cassie. Donc, on a la matière. Ils sont motivés, ils gagnent des prix à l'international, comme là récemment on a entendu un prix Huawei remporté par une équipe de jeunes étudiants algériens. Donc je dirais qu'on n'a plus que besoin de coordinateurs.
Mais vous, est-ce que vous travaillez avec l'Algérie justement? On vous a vu, vous intervenez dans pas mal de conférences hyper importantes en Algérie, mais est-ce qu'il y a possibilité de construire, je veux dire, une passerelle, un pont, mais pérenne?
J'y crois, et personnellement, j'ai déjà des projets en cours avec l'Algérie.
On vous ouvre les portes là-bas?
Il faut les ouvrir.
Ah, si vous avez les clés, c'est bien, alors
non,
dites-nous tout alors.
Ce que je veux dire, c'est que c'est partout pareil. En tant qu'entrepreneur, il ne faut pas croire qu'on est dans un monde de bisounours, qu'on va se présenter et nous ouvrir la porte gratuitement. Il faut faire ses preuves, il faut démontrer qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée, que ce soit Algérie ou ailleurs, n'importe quel pays. Donc, en tant que diaspora algérienne, je dirais qu'il faut qu'on démontre qu'on a une valeur ajoutée à apporter à notre peuple algérien.
Alors, les portes ne s'ouvrent pas d'elles-mêmes, mais elle dit qu'il faut les ouvrir. Vous avez les clés, vous, Cassie Atiala, déjà avec votre casquette de présidente de la Chambre.
Ça se bouscule actuellement.
Ah, carrément.
Ça se bouscule, oui, pour la simple raison qu'il faut dire que la priorité est donnée à la force. Qui arrive dans le monde du travail chaque année en Algérie.
Il y a la préférence nationale, voilà, on va appeler les choses par leur nom.
Ils ont nous partagé la nation.
Par contre, la diaspora, dans le cadre de ce que moi j'ai appelé dans le temps, j'avais dit il y a 460 000 hauts cadres, médecins et chefs d'entreprise d'origine algérienne en France, et j'ai appelé, dans un moment de folie ou de colère, à ce que cette puissance retourne au pays pour essayer de...
C'est un mythe, le retour. Hein.
Voilà. Le retour, oui, parce que nous, on en a toujours rêvé, on est toujours là. Donc, dans ce cadre-là, il y avait la possibilité pour que la diaspora apporte du concret sur place.
Ouais.
Mais, anyway, aujourd'hui, nous sommes dans une société en cours de réforme. Des choses sont en train de se passer.
Mais la réforme, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on parle de réforme.
Parce que le monde change maintenant. Ouais. Avec le Monsebat à l'intelligence artificielle, le monde change chaque 5 ans. Et aujourd'hui, avec les crises...
Moins.
Voire moins.
Non, je parle structurellement. Hein. Mais quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, rien que des décisions du matin de M. Trump, ça fait changer le monde.
Complètement. Voilà. Complètement.
Donc c'est pour ça que je dis, il y a l'écosystème qui est lent à se mettre en place, mais il y a quand même des fous qui viennent du jour au lendemain, par un levier de Pascal, changer les choses.
Alors, justement, on va revenir sur ce contexte international, un contexte sous tension, dans la deuxième partie de l'émission. Merci de rester avec nous. Restez branchés sur Radio Orion. Vous pouvez, pour information, écouter l'intégralité de l'émission, donc mercredi à 19h, mais aussi dans la soirée à 22h, et puis bien sûr l'intégralité le samedi matin. Vous êtes du matin de 9h à 11h. Merci de rester avec nous. À tout de suite.
À visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques dévoilent sans filtre leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, c'est un rendez-vous d'information proposé et présenté par Nadia Bey.
Rebonjour à toutes et à tous et retour sur le plateau de À visage découvert. Aujourd'hui, cap sur l'Algérie avec nos invités Warda Baylich, Kassia Tiala et Dr Majid Seoussine. Il faut le dire, nous sommes bien servis par l'actualité. Plutôt prometteuse pour l'Algérie, mais aussi pour la France, pour les relations franco-algériennes. Après un an de gel total entre les deux pays, l'heure est au dégel. Et le choix de la date n'a pas été du tout anodin. Et n'est pas anodin, c'était le 8 mai dernier, le 8 mai 45. Il y a l'autre 8 mai 45 pour les Algériens, qui est synonyme de massacre à Sétif, Kharata. Et bien entendu, c'est 45 000 morts, c'est pas rien, c'est énorme. Il y a aujourd'hui une reconnaissance du côté français et on a vu qu'à l'occasion de ce 8 mai 45, il s'est passé des choses. D'abord, il y a eu un signal fort de l'Élysée, le communiqué du président de la République Emmanuel Macron qui a dépêché l'ambassadeur qui est de retour en Algérie, mais aussi la ministre déléguée de la Défense qui a même participé, a assisté donc aux manifestations de Sétif. Est-ce que vous y voyez un signal fort du côté de la France qui veut y aller ? Allez, Majid Seoussi.
En tout cas, ça montre au moins que la France a à cœur d'améliorer sa relation avec l'Algérie après cette période de froid qui était surtout due à la présence de quelques petits amateurs de joute, pour ne pas nommer M. Retailleau. Ça montre aussi la constance. On peut faire beaucoup de reproches à Macron,
oui.
Mais au moins on peut montrer une constance dans sa volonté de se réconcilier avec l'Algérie.
Il a laissé faire quand même pendant ce temps-là. Hein. Il a laissé faire.
Pouvait-il faire autrement, étant donné son niveau de faiblesse actuel ? Mais il a quand même envoyé plusieurs signaux. Il a beaucoup fait sur la reconnaissance des crimes commis par la France pendant la colonisation, notamment pendant la guerre de libération nationale. Il a commis une erreur diplomatique, nous la connaissons tous,
oui.
Ce qui a provoqué une grande crise avec l'Algérie qui n'est pas encore résolue, mais qui se résoudra, on l'espère, parce que c'est notre intérêt à tous. C'est une volonté claire, nette, franche et assumée.
On n'en parle pas, Sahara occidentale, il faut appeler les choses par leur nom. Dans le communiqué final, aussi bien avec le chef d'état-major, Sean Greha, on n'en parle pas. Alors, est-ce qu'il faut dire que des deux côtés, on a mis de l'eau dans son vin ? Kassia Tiala ?
Non, c'est l'élément diaspora qui a pris le dessus surtout.
Ah.
C'est une responsabilité de l'Algérie de protéger sa diaspora. Je parle de sa communauté déjà. On est à peu près 2 millions de personnes dans les consulats.
Pour ne pas dire plus que ça,
oui. Mais en fait, on est 10 millions d'origine algérienne, amis de l'Algérie, et qui est en fait la diaspora d'origine algérienne et amis de l'Algérie. Ces 10 millions est une force inimaginable. Ces 10 millions sont là, entre les deux pays, et qui tiennent les deux pays la main dans la main pour avancer vers le positif. Le positif, c'est quoi ? C'est développer. La France a besoin de l'Algérie, l'Algérie a besoin de la France. Pas au point de vue richesse.
Il faut être un mamoule pour se fâcher avec l'Algérie, ce qu'a dit le président de la République. Donc, c'est incontournable, cette relation avec le peuple algérien.
Oui, elle est chromosomique.
Voilà.
Moi, mes enfants sont issus d'une maman française. Et qu'est-ce que vous pouvez casser dans ma famille, s'il vous plaît ?
Non, il n'y a pas de divorce, mais bon.
Il y a de temps en temps. Mais il ne faut pas casser. On peut divorcer avec la femme, mais pas avec ses enfants. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de chromosomique entre nous. Et il faut que les deux pays prennent ça en considération.
Ouais.
Il faut qu'on avance autant que faire se peut. Vous parlez du Sahara occidental. Chaque pays a le droit d'avoir une position sur le Sahara occidental.
Les pays sont souverains.
L'Algérie a sa position qui est ferme sur le Sahara occidental. La France a choisi une autre position. C'est son droit. C'est son droit.
Ouais. On ne voit pas tout ça dans le communiqué final. Et j'ai envie de dire, beaucoup de gens disent c'est tant mieux. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors, Warda Baylich, vous y voyez un signal fort, là, justement, dégel.
Tout à fait. On parlait d'espoir.
Vu que le dégel perdure, parce que, bon, avec l'Algérie, on ne sait pas sur quel pied danser, parce que c'est une relation très passionnelle.
Exactement, tout à fait. Et selon moi, en fait, c'est une illusion si on se positionne. Du côté, disons, pessimiste, de se dire que cette relation, mauvaise relation, pourrait perdurer. Non, je suis convaincue qu'au bout d'un certain moment, on va pivoter et revenir sur une relation beaucoup plus saine qu'on a pu connaître ces derniers mois, années.
Alors, réengager les deux pays pour une relation respectueuse, d'égal à égal, voilà le mot qui a été utilisé dans le communiqué de l'Élysée. C'est important quand même de dire d'égal à égal, parce que jusque-là, il y avait une espèce de rapport de force vis-à-vis de l'Algérie, mais l'Algérie n'a pas abdiqué.
Il y a eu une tentative de rapport de force qui a totalement échoué, et ça montre une méconnaissance totale de ceux qui ont voulu l'engager, de la mentalité algérienne et de la culture algérienne. On sait tous très bien comment un Algérien refuse de plier le genou, et ça, moi, je l'avais dit à l'époque, c'était la plus grosse erreur que d'espérer engager un bras de fer avec l'Algérie. Les Algériens, ils ne cèdent pas, et c'est tout à leur honneur d'ailleurs, et on l'a vu sur des sujets qui nous préoccupent en ce moment, savoir la question palestinienne. Et donc c'était une erreur stratégique, c'était une méconnaissance. C'était surtout une œuvre de communication politique pour se constituer une notoriété, pour se constituer une épaisseur politique, de dire voilà, je suis capable de tenir tête à l'Algérie, moi je ne plie pas. Et finalement, on voit que ça n'a pas marché. Et ça, c'est la meilleure démonstration que si on doit engager une relation avec l'Algérie, elle doit être basée sur un respect mutuel et sur des rapports d'égalité, et on ne peut pas attendre autre chose.
Non, mais dans la sens apaisée et confiante, j'ai envie de dire, on n'est pas encore sorti d'affaire parce qu'il y a l'année 2027 qui se pointe à l'horizon et les candidats aujourd'hui n'y vont pas de main morte. On a entendu Édouard Philippe ce week-end aussi, un peu dans le même état d'esprit que Retailleau.
Lors de son annonce de candidature, sa première annonce, c'était sur une renégociation des accords de 68.
Absolument.
Donc ça démontre une démarche. Là, c'est ce désir de montrer qu'on est des hommes, qu'on a des épaules, qu'on a des ktefs, qu'on est viril. Et donc, on fait cette virilité sur le dos de l'Algérie. Ça, c'est inadmissible, inacceptable.
Mais il s'adresse quand même à un électorat.
Oui, mais l'électorat n'est pas dupe. L'électorat n'est pas dupe. Au quotidien, partout en France, les gens fréquentent des Algériens. Ouais. Savent comment ils sont faits, savent comment ils sont. Chaque fois, moi j'ai été souvent avec des Français en Algérie, chaque fois ils sont stupéfaits par la sincérité de l'accueil, la gentillesse des Algériens et la beauté du pays. Donc on doit s'élever au-dessus de cela. On parlait de couple, on citait l'exemple d'un couple mixte. On est condamné à s'entendre, la France et l'Algérie. Ouais. Donc ça, c'est du parasitisme temporaire. La réalité reprendra rapidement le dessus.
Mais pourquoi une partie de la classe politique française, Kassia Etiala, ne veut pas de cette réconciliation et ils veulent absolument qu'on se fâche avec l'Algérie? Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Ce qu'il faut savoir côté algérien, nous avons été très zen. On a vécu un problème de politique intérieure français. C'est en France que ça n'allait pas. Et comme l'Algérie ne s'ingère jamais dans les politiques d'autres pays internes, donc elle a subi de plein fouet certains problèmes. Le problème vient bien sûr du Front National qui a pris de la puissance et de l'envergure. Et ce Front National, on sait d'où il est issu. C'est un Front National qui est issu de la guerre d'Algérie.
Ouais.
Et de Pétain.
Et l'Algérie a tenu, malgré ça, avec la sagesse qu'on lui connaît. Et si on n'a pas à dire qu'on n'a pas voulu, on n'a pas courbé les chines devant qui que ce soit, notre plus belle réalisation, c'est notre guerre de libération.
Mais il y a aussi une réalité. Excusez-moi, Kassia Etiala. Lorsque vous parlez de l'Algérie, vous parlez bien sûr du pouvoir algérien. Mais moi, j'ai envie de parler de la diaspora qui a subi cette crise de plein fouet, il faut le dire. Privée de visites de leur famille, privée de beaucoup de choses. Il y a même, justement, on a même alimenté un sentiment une algérophobie. Il faut appeler des choses par leur nom. Mmh. On a dit, c'est aussi une, beaucoup d'Algériens n'étaient pas les bienvenus.
Je pense que c'est un peu aussi notre faute.
Pourquoi ?
Comment expliquer que un panel de 3-4 millions de gens d'origine algérienne, qui sont des électeurs, qui sont des acteurs économiques, n'aient pas plus de poids dans la société française?
C'est juste.
Comment se fait-il que nous n'ayons pas plus d'élus? Comment se fait-il que nous ne soyons pas plus impliqués, plus présents dans la société civile, dans la société politique, dans la société économique, et qu'on ne soit pas plus visible? Je crois qu'un président français a dit qu'on était respecté quand on était fort.
Oui, tout à fait, absolument.
Je pense qu'on devrait méditer cette phrase.
Alors, on devrait méditer, mais justement...
Non, il ne faut pas se retrancher sur...
Qu'est-ce qu'il y a là?
Il ne faut pas se retrancher sur le fait de communautarisme ou quoi que ce soit.
Non, parce
que
ce n'est pas du communautarisme.
Nous sommes,
il parle de lobbying, de réseaux forts.
Regardez ce que Cercy vient faire nos voisins marocains.
Oui.
Nous vivons la France comme des Français et nous vivons l'Algérie comme des Algériens. L'Algérie a été sage. Elle n'a pas réagi d'une manière réciproque, aussi intense et aussi méchante que de l'autre partie. Et ça, c'est tout en notre honneur. Et la diaspora a été très, très intelligente. La diaspora savait, elle a géré la situation. Elle ne s'est pas laissée faire, elle a géré.
Et elle a surtout avalé. Hein.
Elle a avalé. Ouais.
Non, pas du tout.
Non, je ne suis pas d'accord sur le mot avalé.
Alors, on n'est pas d'accord.
Non, je suis d'accord avec Cassie, effectivement. Non, c'est pas avalé.
Elle a géré.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'elle a géré?
Elle a géré cette situation. Ouais. Et ce qui se passe aujourd'hui, le travail des petites pierres qui a été entamé depuis la nomination du nouveau ministre de l'Intérieur français, a fini par donner raison à notre diaspora. Aujourd'hui, nous sommes vers on revient vers un état des lieux qui peut être opérationnel et qui peut être un up pour l'avenir de nos enfants.
Ouais, il n'y a pas eu de soumission, les Algériens ont assuré.
Tout à fait, ce n'est pas celui qui parle le plus fort ou qui parle le plus qui est le plus puissant.
C'est pas les réseaux sociaux qui...
Tout à fait, exactement, ni d'être visible d'ailleurs. Par contre, je rejoins le fait...
Si nous avions quelques députés de plus ou quelques milliers, quelques secrétaires nationaux de plus nombreux chez Horizon et que nous représentions des électeurs plus puissants, je pense qu'Edouard Philippe y réfléchirait deux fois avant de s'avancer pour dire de tels propos.
Alors, je vous dirais oui et non. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous ne sommes pas aussi nombreux que vous le souhaiteriez au niveau de l'Assemblée nationale, mais je dirais que nous sommes sur d'autres terrains.
Voilà.
On aimerait bien les connaître, ces terrains, parce qu'il y a une absence de visibilité des compétences algériennes aujourd'hui au sein de la société française. On voit au niveau de l'Assemblée, mais on voit aussi au niveau du Sénat, mais on voit également dans les sociétés, les autres entreprises, où effectivement il y a... une sous-représentation de la communauté. Il n'y a qu'à voir le gouvernement. Enfin, le gouvernement, habituellement, il y a toujours un ou deux ministres d'origine algérienne. Ce n'est plus le cas depuis des années.
Cassia Tiala.
Nous sommes à la fin de l'émission. Pour les 1 minute qui nous reste à passer ensemble, vous voyez, on est passionnés par l'Algérie, c'est très, très important. Est-ce que ce dégel, j'ai envie de dire, va persister et qu'on peut formuler le vœu que les relations, il y a un vrai réchauffement des relations entre Paris et Alger? Cassie a été à là et puis après...
C'est bien parti. C'est bien parti. On a bien vu le président de la République faire la bise à l'ambassadeur de France en Algérie. C'est un signe très, très fort. On sent que les choses vont en s'améliorant. Il y a la confiance qui revient. Et avec la confiance, tout peut se passer.
Autour de la confiance.
Autour de la confiance. Et il faut juste savoir que la conjoncture mondiale n'est pas évidente.
Tout à fait.
N'est pas évidente. Aujourd'hui, ça se gère. Il faut que ça soit géré par des spécialistes. Beaucoup de gens des réseaux sociaux croient tenir la vérité. Mais la vérité, elle est entre les mains des renseignements généraux, elle est entre les mains des services, elle est entre les mains des militaires, des cadres, des politiques, des partis, etc. Il faut laisser ces gens-là travailler.
Voilà.
Sans les perturber.
Et on a vu effectivement la déclaration faite par le chef d'état-major Shangriha en soulignant le contexte de tension que connaît justement la région du Sahel, mais aussi à l'international la guerre au Proche-Orient. Ouarda Belaïch, justement, le mot de la fin et puis après Majid.
Écoutez, le mot, c'est la sagesse. C'est de se poser les bonnes questions et d'avoir une vision long-termiste. Le jeu d'ego qu'on a pu voir chez certaines personnes politiques ici, malheureusement, je pense qu'il va réitérer, parce que c'est ce que je vois malheureusement quand j'allume certaines chaînes médiatiques. Ce que j'appelle, c'est vraiment à la sagesse.
appel à la sagesse, ce retour à la confiance, que dirait docteur Omadjit aussi, qui est aussi un sage.
Je ne peux jamais condamner un appel à la sagesse, j'aime trop la philosophie. J'aimerais en revanche qu'on s'organise un peu plus pour peser un peu plus.
Voilà qui est dit.
La campagne présidentielle arrive et il faut savoir qu'on représente des bulletins de vote. Il faut que ça se sache et il faut qu'on aille voter pour se faire respecter. Je n'ose pas imaginer le scénario catastrophe d'un Jordan Bardella, qui a un peu de sang algérien, me dit-on. Peut-être qu'on pourrait lui donner comme antidote de l'huile d'olive pour l'adoucir un peu. Mais je n'ose pas imaginer ce que peut être la relation algérienne avec un Jordan Bardella, président de la République. Nous verrons.
Mais on a des Ségolène Royal, on a des De Villepin, on a d'autres personnes qui récupèrent ce que vous voulez qu'on récupère.
Voilà. L'espoir est permis.
Il faut être partout. À droite comme à gauche.
Et on a démontré que la mobilisation était très forte lorsqu'on se mettait d'accord.
Voilà. Alors c'est très bien parce que c'est un appel à la mobilisation, bien sûr dans la perspective de 2027. Vous avez compris, présidentielle de 2027 oblige. Merci d'être venu dans nos studios pour nous décrypter justement cette relation compliquée entre l'Algérie et la France. Point final donc à cette émission. Merci à bien sûr à vous, Warda. On commence toujours par les dames.
Merci à vous,
Nadia. Merci à Cassia Tiala, avec ou sans sa casquette de la CACIF. Et merci au docteur Majid Seoussin. J'espère que le monde se portera mieux sans le virus.
Oui, avec ou sans le virus, il continuera d'exister. On a connu pire.
Merci
c'est
à
un médecin
vous.
Qui le dit. Hein.
Merci de rester fidèle au programme de Radio Orient.
À visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques dévoilent sans filtre leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, c'est un rendez-vous d'information proposé et présenté par Nadia Bey.